Hello, hello! Et bienvenue sur Maman Active. Maman Active est le podcast des femmes qui refusent de choisir entre ambition professionnelle et ambition maternelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une maman active juste superbe qui s'appelle Sonia. Sonia vient aujourd'hui, elle a accepté mon invitation et je l'en remercie grandement pour vous parler de son parcours de maman active accompli et également pour vous partager son expérience de coach en organisation et gestion du temps. Sonia est une maman active de 4 enfants. Elle est également consultante en informatique. Elle a beaucoup de choses à partager avec nous. Je ne vais pas prendre plus de temps et je vais lui donner la parole. Bienvenue Sonia.
Merci Milady.
Comment vas-tu?
Je vais très très bien. Merci à toi pour ton invitation.
Super. Alors dis-nous Sonia, qui es-tu?
Je vais commencer par me présenter. Je suis Sonia Enama, comme tu l'as dit. Je suis maman de 4 enfants. Je vis en France. Je suis d'origine camerounaise. Je vis en France depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Alors, professionnellement, je suis chef de projet MOA, donc je travaille dans des directions de services informatiques de grandes entreprises françaises où j'accompagne justement ces entreprises-là dans leur transformation numérique, comme on dit. Je suis également consultante et coach en organisation, en efficacité personnelle et en gestion du temps. Donc, j'ai monté mon cabinet de conseil il y a 2 ans. Donc, je suis en plein dedans où j'accompagne des personnes, notamment des mamans justement actives qui exercent plusieurs activités et qui ont du mal au quotidien à pouvoir gérer leur temps et qui se retrouvent souvent submergées, surmenées. On sait ce que c'est à courir à gauche et à droite pour pouvoir tout gérer. L'objectif étant vraiment de les aider à pouvoir avoir une vie et équilibrer, à donner vraiment toutes les billes, du moins les billes que j'ai, que je connais par mon expérience et par tout ce que j'ai appris, à mettre en place un système d'organisation efficace pour qu'elles puissent vivre de manière beaucoup plus sereine. C'est ce à quoi on aspire toutes, finalement.
Exactement. Oh là là, la sérénité.
Plus sereine, voilà, au quotidien, ouais. C'est vraiment pas donné dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y a vraiment ce culte de la performance. On se sent obligé d'être toujours busy, comme on dit, toujours surbooké. Et mais non, être surbooké, ça ne veut pas forcément dire qu'on est efficace. Être surbooké, ça ne veut pas forcément dire qu'on est heureux. Mmh. Donc aujourd'hui, les gens aspirent à autre chose. Il y a une réelle quête de sens. Les gens se posent énormément de questions quant à ce qu'ils souhaitent réellement faire, à quoi se recentrer. Et donc, je suis vraiment dans ce parcours-là. Pour moi, c'est une mission de vie que d'aider des personnes à se recentrer, et c'est vraiment mon slogan, à se recentrer sur des choses qui sont essentielles pour elles.
Ah, c'est super, j'aime beaucoup. Et vraiment, tout ce que tu as dit fait écho énormément chez moi. Et je pense que ça fait écho chez toutes celles qui nous écoutent. Parce que s'il y a bien, on va dire, le nerf de la guerre d'une maman active, c'est la gestion de son temps. On a toujours la sensation de ne jamais avoir assez de temps. Mais on va y revenir après. Avant d'aller dans le vif du sujet de la gestion du temps, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de toi, de ton parcours en quelques mots, nous expliquer comment toi, tu es devenue cette maman active de 4 enfants qui travaille dans des grandes entreprises, qui est chef de projet dans le domaine de l'informatique. C'est quand même pas rien, parce que je sais ce que ça peut représenter comme responsabilité et celles qui nous écoutent aussi. Comment toi, tu es arrivée dans ce parcours-là. Comment toi, quelles clés tu as mises en place? Comment ça a été pour toi déjà, pour commencer, quand tu es devenue maman?
Et c'est vrai que je me suis réellement pas souvent posé la question. C'est, comment dire, je pense qu'il y avait des choses à la base en moi, comme on dit. Généralement, on reproduit ce qu'on a vécu. J'aime avoir à le dire. Je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. mais très très proches, à savoir ma famille, mes frères et sœurs notamment, savent à quel point j'étais une petite fille assez désinvolte, très très paresseuse. Plutôt du style paresseuse, toujours en train de se cacher à éviter les tâches ménagères, à éviter de faire ses corvées. Mais j'avais la chance d'appartenir à une très grande fratrie et étant parmi les dernières, j'arrivais toujours à me faufiler. Et
Excellent.
les aînés me passaient tout. Mais j'avais, mon père était militaire et ma mère, et institutrice de carrière, hein. Ma mère, c'est quelqu'un de très, très organisé. Je pense que je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup de maman parce que j'ai vu beaucoup faire, en fait. Même si j'ai pas appliqué, hein, sur le coup quand j'étais
Mais tu as
petite,
beaucoup
mais j'ai
observé.
beaucoup observé. Maman a été beaucoup dans l'anticipation. C'est une femme très, très active. Elle est toujours, hein, dans sa retraite. Elle a eu beaucoup d'activités. Elle était à la fois instite, responsable d'association, responsable au niveau de l'église, des femmes de son quartier. Et donc, à côté de ça, voilà, elle continuait vraiment de mener tambour battant, hein, l'organisation de sa maisonnée avec ses 9 enfants. Donc, du coup, je pense que ça vient quelque part, ça vient de là, parce que tout était balisé, en fait. Tout devait être fait à l'avance, on préparait tout la veille. Je précise, Milady, je ne le faisais pas la plupart du temps. Donc, voilà,
Noté,
tout
la
était fait.
précision est notée.
Voilà, tout était fait la veille. Quand on rentrait, on savait ce qu'on avait à faire. Les menus de la semaine, jusqu'aujourd'hui, je les connais par cœur. Je sais exactement. Juste une petite
Waouh.
anecdote. Je suis d'origine camerounaise. Les gens qui connaissent la culture camerounaise et les Camerounais savent que le plat de base, hein, ce sont les haricots rouges, par exemple. Un plat. Ma mère disait toujours que c'était un plat soporifique. Donc, c'était un plat qu'elle faisait le mercredi parce qu'elle savait que le mercredi après-midi, on n'avait pas cours. Et donc, on pouvait dormir à loisir.
Wow, ah
Donc,
oui, c'était
voilà,
sacrée
ça m'est resté.
anticipation, ah oui.
Exactement, ça m'est resté. Elle faisait les menus comme ça de la semaine. Je pense que ce sont des choses qui étaient ancrées en moi. Et quand je me suis retrouvée étudiante en Europe, je pense qu'il y a des choses qui se sont déclenchées en fait. Et j'ai eu la chance, en étant étudiante, de faire beaucoup de babysitting, donc d'intervenir dans des familles. Et dans ces familles-là, j'ai eu la chance également de tomber vraiment sur de super mamans qui étaient très, très organisées. Ce qui m'a aussi apporté les codes à l'européenne, plus ce que moi j'avais déjà de ma
Comme
propre
bagage,
comme bagage. Et je pense que tout ça, petit à petit, a commencé à se mettre en place. Quand j'ai commencé à avoir mes enfants, je sais que ma mère a été très, très inquiète, hein. Elle était très inquiète pour moi parce qu'elle se demandait, mais comment elle va faire? Elle qui ne faisait jamais rien.
Oui, elle se rappelait de la petite Sonia qui observait, mais qui n'était
Exact,
pas trop dans l'action.
exactement, mais comment elle va s'en sortir? Elle appelait ma grande sœur qui est avec moi ici en Europe, elle disait, mais comment elle va s'en sortir toute seule? Et je pense que le déclic qui s'est fait à ce moment-là, tout est remonté et oui, j'ai commencé vraiment à faire les choses de manière très, je dirais, pour ma première, vraiment très, très mécanique même, hein, parce que j'avais le souci de bien faire. Je savais qu'on m'attendait au tournant, en fait. J'avais beaucoup de pression aussi parce que je sais que mes frères et sœurs, mes parents se demandaient comment j'allais m'en sortir. Et donc, je me suis mise énormément de pression. J'aime avoir à le raconter parce que avec ma première, tout était vraiment très mécanique. Le souci de bien faire les choses. C'est vrai, je les faisais très très bien, mais j'avais beaucoup de pression, beaucoup de pression.
Et comment tu
J'ai
l'as vécu, cette pression-là, quand tu es devenue maman, ta première maternité, à vouloir avoir cette pression de vouloir tout bien faire, de finalement d'atteindre une certaine perfection.
Oui, c'était très lourd, Milady. C'était très, très lourd parce que je savais qu'on m'observait. Peut-être qu'on ne le faisait pas, hein, j'en sais rien. Mais J'avais le souci de bien faire et je savais que j'étais attendue au tournant. Et mes frères et sœurs sont très taquins en fait. Et je savais qu'ils allaient me dire à un moment donné, mais voilà, on te disait quand tu étais petite qu'il fallait faire les choses. Et maintenant, tu y es, quoi, tu es en plein dedans. Et donc, moi, je me mettais cette pression-là, et finalement, ça n'a pas été ça. Quand je discute avec les uns et les autres de cette période-là, on en a beaucoup discuté, ils me disent, mais non, nous, on te faisait confiance.
Wow.
Nous, on t'a fait
Donc en fait,
confiance.
c'est toi-même qui avais, voilà, c'est toi-même qui avais anticipé finalement le jugement
Tout à
extérieur.
fait.
C'est toi-même qui avais anticipé ce fameux diktat sociétal dont je parle avec un grand S. Hein, quand je parle de société, je parle à la fois, ça peut être la société dans laquelle on vit, ça peut être l'entreprise, ça peut être les collègues, les amis et la famille.
Tout à fait, tout à
Et
fait.
donc toi, tu avais anticipé ce diktat en disant, oh, comme j'ai jamais rien fait quand j'étais petite, là,
Ils
ils
vont.
vont m'attendre au
Tout à
tournant.
fait. C'est exactement ça. Mais ça ne l'a pas été. Mais je me suis mise énormément de pression et c'était très, très lourd. C'était très, très, très
Oui.
lourd de faire les choses, finalement, pas avec le cœur.
Oui. Et pas à ton image finalement, parce que tu les faisais par rapport à une image que tu avais de ce qu'il fallait faire.
Exactement. Ce qu'il fallait faire. Je me disais, c'est ça qu'il faut faire, il faut bien faire, il faut que les miens soient fiers de moi, il faut que j'assure en fait
Ouais.
en tant que maman. Donc, je les faisais bien, il n'y a pas de souci, mais j'y ai pas mis du cœur. J'y ai pas mis du cœur. Et du coup, pour ma deuxième, je me suis lâchée.
Et là, Sonia est née, c'est ça?
Voilà.
Yes! Alors raconte-nous ça.
Là, je suis née. Déjà, tous les livres de parents,
Ouais.
voilà, j'ai mis de côté et je me suis dit, je vais m'écouter, je vais faire les choses comme je les sens.
Super.
Et je peux te garantir que là, ça a vraiment été génial pour moi parce que je sentais les choses, je les faisais telles qu'elles venaient à moi finalement avec ma petite et j'ai vécu des moments vraiment, vraiment géniaux sans pression aucune.
Sans pression,
Voilà.
là, tu as pu vraiment vivre une maternité sereine, en fait,
Exactement.
beaucoup plus sereine.
Beaucoup plus sereine. Et avec ce bagage de l'organisation qui m'a toujours aidée, les choses étaient beaucoup plus simples pour moi. Et je pense que c'est vraiment à partir de là. Et je sais qu'il y a des collègues, il y a des collègues aussi, hein, maman comme moi, qui m'avaient fait la remarque lors de cette deuxième maternité, hein, quand j'ai repris, qui me disaient, mais on n'a pas l'impression, Sonia, que t'as des enfants, en fait. T'es toujours jolie, t'es toujours bien mise, t'es jamais en retard, tu parles pas des soucis de tes enfants, on dirait que tout roule toujours pour toi. Et je disais, bah oui, tout roule, en fait.
Comme quoi c'est possible.
Et donc, je disais, tout roule. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il y a un truc, peut-être que j'ai un truc finalement. Au-delà du fait, justement, de mes maternités, et je sais que ça avait déclenché énormément de choses, j'ai commencé vraiment à m'intéresser. J'ai toujours été plus ou moins au service des autres, hein, prompte à aider dans l'organisation. J'adore ça, l'organisation. Il suffit que tu me dises, hein, Milady, que tu as ton anniversaire à organiser. Je suis déjà la première à vouloir être là la veille, à vouloir tout faire pour que tout se passe bien. Donc, autant de choses qui m'ont finalement guidée. Et quand j'ai eu mon dernier, hein, il y a presque 3 ans, non, pas pendant la période Covid. Là, je me suis vraiment posé la question de savoir si je voulais continuer dans l'informatique, vraiment, si je voulais terminer, hein, ma carrière professionnelle dans l'informatique. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de chercher mon talent. Je me suis interrogée sur ma mission de vie, finalement, et je me suis dit, Ah, ça ne peut être que l'organisation, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché, hein. Même par curiosité, j'ai toujours cherché à comprendre comment les choses fonctionnent. La gestion du temps, j'ai acheté des bouquins de la gestion du temps quand j'étais à la fac, pour te dire. Donc j'ai toujours eu des bouquins là-dessus à essayer de d'optimiser finalement, à être efficace au quotidien.
Oui, c'est un sujet qui te
Tout à
passionne.
fait.
C'est un sujet qui te passionne. Et donc, tu as, à un moment donné, tu t'es interrogé, tu es arrivé à un moment de ta vie, quatre enfants. Et là, tu t'es questionné en te disant, est-ce que ça me plaît encore? Tu as peut-être ressenti, as-tu ressenti à un moment donné une sorte de perte de sens peut-être dans ton métier
Oui.
actuel? Enfin, ton, voilà, et tu t'es peut-être dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Et comment ça s'est passé pour toi? Comment ce questionnement-là est arrivé chez toi
Alors,
à ce moment-là?
l'informatique, tu sais, c'est très abstrait en fait. Parfois, de ne pas, en tant que consultante, hein, on peut démarrer sur un projet, on peut arriver sur un projet et même pas voir l'aboutissement de celui-ci, d'être vraiment. Et moi, je travaille en amont, vraiment en avance de phase, ce qui fait que la concrétisation vraiment du projet, du produit en lui-même, je n'y suis pas souvent. Et donc, voilà. C'est quelque chose qui m'a manqué parce que j'avais besoin de choses concrètes. J'avais besoin de rajouter de l'humain dans ce que je faisais. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à me questionner, à me demander vraiment si c'est ce que je voulais continuer de faire.
Ouais, tu as identifié un manque, en fait, dans ta profession, et tu t'es demandé, alors, ce manque-là, comment je pourrais le combler? Pourquoi j'ai ce manque? Et tu as identifié que c'était l'humain.
Tout à fait.
Et est-ce que dans ce cheminement-là, dans ce questionnement-là, tu as ressenti une baisse d'énergie, une baisse de motivation? Et si oui, comment as-tu fait pour rebondir et trouver l'énergie pour aller vers ce changement que tu désirais mettre en place?
Le fameux bore-out. L'ennui.
Ah, yes! Parce qu'on parle beaucoup de burn-out,
Oui.
mais c'est vrai qu'on ne parle pas encore assez du bore-out. Raconte-nous ça.
On ne parle pas assez du burn-out. Effectivement, il y a énormément de salariés qui sont victimes de burn-out. Je me suis retrouvée sur une mission où j'avais quasiment rien à faire. Hein. Je me tournais littéralement les pouces. Et là, vraiment, ça a été un réel souci. C'est difficile de se lever le matin en sachant qu'on n'aura rien à faire de la journée. Ou
Complètement.
alors, ce qu'on a à faire ne sera pas vraiment impactant, hein, finalement. Et la motivation, il faut vraiment l'avoir. La motivation, elle tient au fait que il faut bouillir la marmite, hein, tout simplement, à ce niveau-là. Donc, on s'y perd. À force, on s'y perd.
Ouais.
À travailler comme ça, on finit par réellement s'y perdre. Moi, ce qui m'a toujours permis de maintenir le cap, c'est vraiment les miens, c'est ma famille, ce sont mes enfants. Je me dis, au-delà de l'aspect alimentaire, je me disais, voilà, je dois me lever le matin, je dois être toujours cette maman-là quelque part, hein. Non pas dans le souci de bien faire, mais je sais qu'en tant que maman, en tant que parent, on est le miroir de ses enfants. On ne peut pas, c'est vrai que quand ça va mal, il faut souvent aussi dire aux enfants que ça va mal, mais j'avais pas envie. J'avais envie de régler ça toute seule et je continuais de me lever le matin, à sourire, à faire les choses comme j'avais l'habitude de faire, mais d'aller travailler dans ces conditions-là en sachant que voilà, derrière, je ne ressentais plus, je dirais pas d'envie, mais que je m'ennuyais profondément.
Est-ce que tu dirais que ça a eu un impact du coup dans ton quotidien?
J'ai pas laissé durer cette situation-là parce que j'ai très vite, du coup, j'ai réagi, hein, j'ai réagi très rapidement par rapport à ça pour me donner un petit coup de boost, hein, finalement, j'ai décidé de repartir sur les bancs de l'école. pendant cette période-là, cette période de mou finalement. Et c'était un gros challenge pour moi. Je m'étais toujours dit, hein, j'avais toujours eu l'envie de reprendre des études et je m'étais toujours dit que si je le faisais, il fallait vraiment que ce soit dans une grande et prestigieuse école et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis repartie à l'école, dans une école de commerce Paris et j'ai repris mes études et là ça a été un challenge vraiment de malade, juste de malade. Merci.
C'est excellent ce que tu nous partages parce que là, tu vois, on est en train de vivre avec toi les cycles du changement. Et les cycles du changement sont des cycles qu'on peut vivre en une journée comme on peut les vivre en plusieurs mois ou en plusieurs années.
Tout à fait.
Et là, tu étais arrivé dans un cycle où finalement, tu avais eu la phase de déclin, puis la phase de marasme où tu n'étais pas bien, tu t'ennuyais, tu étais en plein bore-out et tu as trouvé dans cette phase de marasme qui est super parce que c'est une phase où on se recentre sur soi-même.
Tout à fait.
Où on se pose les bonnes questions et on trouve des solutions pour repartir vers une phase de renouveau. Et tu as réussi à partir vers la phase de renouveau en justement reprenant une formation dans une école qui te faisait envie depuis longtemps. Et là, tu es reparti, du coup, tu as pu réinjecter de l'énergie pour revenir dans une phase de lancement.
Tout à
C'est
fait.
super.
Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et pendant un an et demi, je le dis toujours, j'ai eu l'impression que mon cerveau s'est littéralement ouvert parce que j'ai tellement appris, que ce soit humainement, hein, ou professionnellement, intellectuellement, j'ai été tellement nourrie, tellement enrichie. Je suis sortie de là. Quand je suis sortie de là, je pense que j'étais une toute autre personne, vraiment une toute autre personne.
C'est un super témoignage parce que du coup, toutes celles qui se trouvent dans une situation de bore-out ou même de burn-out, même si c'est une situation différente, une fois qu'on sort de la dépression du burn-out, c'est intéressant de voir ça parce que, ou de l'ennui qui peut aussi amener une dépression, hein, le bore-out.
Ah oui, tout à fait, il faut faire très très attention.
Pareil, hein, c'est vraiment, ça a les mêmes conséquences. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire parce que ça permet de faire comprendre à toutes celles qui nous écoutent. C'est qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que cette phase-là est aussi essentielle. Il ne faut pas la rejeter. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas une honte d'être déprimé, d'en avoir marre de son boulot ou de s'ennuyer de son boulot. C'est juste que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et il est important de réinjecter du nouveau. Et en réinjectant du nouveau, finalement, on se remet en énergie et on s'ouvre un champ des possibles qu'on n'est pas capable forcément d'imaginer. Quand on est en plein dans le bore-out ou dans le burn-out. Et ça, c'est essentiel. Ton témoignage est essentiel pour faire comprendre ça à toutes celles qui nous écoutent, qu'il est toujours possible de rebondir. Après, effectivement, ça prend le temps qu'il faut selon chacune,
Chacune,
mais
tout à
il
fait.
faut vraiment garder en tête que c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Comme Sonia vient de nous le raconter, elle a vécu ça et elle a su se poser les bonnes questions et finalement trouver. Dans la formation, vous, ça peut être autre chose, hein, celle qui nous écoute, ça peut être autre chose, mais dans la formation, elle a pu trouver un nouveau champ de possibles qui lui a ouvert un nouveau chemin, en fait. Et ça, c'est génial.
Oui.
Et du coup, après cette formation, tu t'es lancé, non, dans ton entreprise de consulting et de coach, alors, au final, c'est ça?
Tout à fait. Et j'ai eu mon diplôme étant enceinte, hein, donc j'ai pris le temps de mettre au monde mon petit. Et c'est vraiment pendant encore ce congé maternité que j'ai fini par fixer les choses, me dire voilà, ok, je vais me lancer là-dedans. Et pour tout te dire, hein, je ne me suis pas lancée dans un premier temps, hein, sur le consulting en organisation. J'ai commencé par la conciergerie privée. L'idée étant toujours de faciliter la vie aux unes et aux autres, hein. Mais avec des enfants en bas âge, ça n'a pas été évident. Et comme je tiens vraiment à mon équilibre familial, j'ai préféré abandonner la conciergerie privée et me réorienter finalement vers le consulting en organisation, la formation, le coaching et aujourd'hui la formation auprès d'entreprises sur l'efficacité au travail. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites.
Mais c'est super ce que tu viens de dire. Tout est une question de choix également. Tu sais, dans Maman Active, je parle beaucoup d'harmonie de vie. Je parle beaucoup de cette notion d'harmonie entre la vie privée et la vie professionnelle. Et effectivement, cette harmonie n'est pas facile à trouver et elle est différente pour chacune de nous. C'est pour ça qu'il est essentiel d'identifier ce qui compte le plus pour nous. Et il y a certains moments dans la vie, ça va être le travail qui va compter plus et la vie privée va compter moins. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot équilibre, même si on l'utilise tous communément, donc c'est plus facile pour être audible, on va dire,
Audible et compris, oui.
et compris. Mais moi, je le remplace souvent par harmonie parce que l'équilibre sous-entend que la balance, elle est alignée, que c'est 50-50, tu vois. Alors que pas forcément, il y a, c'est comme je disais tout à l'heure, les cycles du changement, c'est pareil. L'harmonie, elle peut être cyclique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans votre vie, vous pouvez avoir besoin d'être plus présente pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre famille, et moins au travail. Donc, l'harmonie sera plus, enfin, la balance sera plus haute dans la vie privée et plus basse dans la vie professionnelle. Et inversement, et c'est OK, c'est OK. Et là, tu as fait ce choix-là parce que pour toi, tu as senti que ton harmonie à toi dépendait de ça. Il fallait que pour toi, tu aies plus de temps, plus de présence familiale avec tes enfants.
Tout à
Et
fait.
tu as fait le choix de réorienter du coup ton objectif professionnel, ton but en fait, et l'entreprise que tu étais en train de créer vers quelque chose de moins chronophage peut-être.
Chronophage, tout à fait. C'est vraiment ça, moins chronophage, parce que du coup, ça me prenait mes week-ends. Et les week-ends, c'est les seuls moments, finalement, où on se retrouve en famille, où on fait des activités en famille. Donc, je me suis dit que ça pouvait pas matcher avec ce que moi, je ressentais au plus profond de moi-même, à savoir que moi, je mets vraiment, c'est mon ancrage, hein, ma famille, mes enfants. Peu importe le nombre d'activités que je peux avoir, il est important pour moi d'avoir cette harmonie avec les miens.
Donc, tu as réajusté
Tout à fait.
pour te réaligner.
Tout à fait. Bah, on fait que ça, hein, finalement, au quotidien. C'est comme tu dis, effectivement, le mot équilibre, ça fige les choses. Or, les choses ne sont pas figées. On fait, tu l'as très bien dit, Mélodie, c'est qu'à un moment donné, on fait des choix. On va faire le choix de, comme j'ai eu à le faire, hein, de repartir sur les bancs de l'école. Ça a été vraiment un pic, hein, parce que c'était un rythme assez dense. Avoir une vie familiale, je continuais à travailler à temps partiel. Le soir, il fallait travailler en groupe avec mes camarades. C'était assez lourd. Et donc, à l'issue de ça, il fallait, ouf, voilà. Il fallait se poser un peu et puis réfléchir vraiment avant de repartir sur autre chose. Généralement, je fonctionne comme ça et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec quand tu parles d'harmonie et de cycle finalement.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ton moteur? Qu'est-ce qui t'anime dans ces moments-là, surtout qu'est-ce qui t'a animé dans ces phases de changement? Parce que le changement, on sait, ça perturbe. Ça perturbe justement l'harmonie. Ça perturbe
Oui.
finalement notre équilibre intérieur, tu vois. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui te drive en fait? Qu'est-ce qui te permet de garder le cap, Sonia?
Le mieux-être, vraiment la quête du mieux-être, c'est le premier truc qui me vient spontanément. Vraiment le mieux-être. Dans cette phase de burn-out que j'ai connue, ça a vraiment été la quête du mieux-être. Il fallait que je sorte de là. J'ai choisi la formation pour sortir de cet état de fait-là et ça m'a fait du bien. Et je me rends compte, avec beaucoup de recul, hein, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai comme ça des périodes de changement, de je suis toujours dans une quête de mieux-être parce que quand ça va trop vite pour moi ou quand ça va pas assez vite, et là du coup ça me voilà, ça peut vraiment me tirer vers le bas. C'est toujours ce que je recherche finalement, le mieux-être. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait vibrer finalement?
De quoi j'ai besoin.
Exactement. De quoi j'ai besoin moi pour être bien avec l'autre, pour être bien avec les miens, pour être bien avec tous ceux qui m'entourent? Je pense que tout part de là.
Oui,
Je
complètement.
ne peux pas parler du du besoin de servir les autres si au fond de moi je suis pas bien. Donc moi c'est d'abord ce mieux-être là. Quand je suis bien, je pense que ça irradie finalement autour de moi. Ça
Complètement.
systématiquement. Donc
Complètement.
c'est la quête d'un mieux-être.
Ah, super, c'est vraiment ça. Tout commence par soi. Moi, je ne le dirai jamais assez à toutes les mamans actives qui m'écoutent et que j'accompagne. Je leur dis toujours, tout commence par vous. Quelle que soit la situation qu'elles m'amènent en coaching, je commence toujours par un état des lieux pour voir où elles en sont avec elles-mêmes et pour leur permettre de prendre conscience d'elles-mêmes. Parce que c'est vrai, quand on est une maman active, ambitieuse, on est partout à la fois et nulle part en même temps pour nous-mêmes. Et il est important de se recentrer sur soi. Merci beaucoup Sonia pour ce que tu viens de dire. C'est vraiment ça. La quête du mieux-être commence par mieux-être avec soi-même,
Avec soi-même.
pour soi-même. Et ensuite, effectivement, comme tu l'as dit, on est bien avec les autres. Et c'est ce que moi j'appelle l'égoïsme altruiste. Qu'est-ce que tu en penses de ce concept?
Tout à fait d'accord avec toi. Je suis la plus égoïste, altruiste qu'il soit, parce que je commence d'abord à penser à moi, parce que je sais que ça part de là. Quand je suis bien, tout va bien. Et je pense que c'est valable pour tout le monde de toute façon. Quand on est bien, forcément autour de soi, tout va bien.
Complètement. Je vous remercie d'avoir été là avec Sonia et moi. La semaine prochaine, elle vous partagera des clés concrètes à appliquer très simplement dans votre quotidien pour vous organiser et gagner du temps. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Vous pourrez ainsi aider d'autres femmes à le découvrir plus facilement. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.